Chapitre 5. Le lendemain, lorsqu'il vint à la cabane des Damon, Gilbert eut une suffocation en voyant Isoline assise sous le manteau de la cheminée. Ce n'était plus la paysanne de la première fois, mais une demoiselle, ou plutôt une noble damoiselle, car dans la coupe de ses vêtements, dans sa coiffure, il y avait un reflet voulu du Moyen-Âge. Elle se détachait clairement sur la mousse brune formée par la suie. Sa robe gris clair en drap fin était relevée de côté par une corde de soie, ses cheveux pendaient en deux longues nattes sur sa poitrine et un petit bonnet de velours gris, gracieusement échancré, serrait le sommet de sa tête. Un voile léger d'un bleu doux y était attaché. Le jeune homme, après s'être découvert, n'osait avancer, craignant de faire envoler l'oiseau farouche. Mais Isoline ne bougeait pas, elle dardait sur lui son regard hautain, qui, peu à peu cependant, s'adoucit et se voila. « Venez, dit-elle, Marie va rentrer. » Il s'assit à quelques pas d'elle, et tandis qu'elle baissait les yeux vers les cendres froides, il savoura enfin la joie de la regarder à son aise. Le visage était long, d'une pâleur d'hostie, le menton très fin, le nez légèrement courbé, les sourcils, souvent froncés, marquaient un léger pli au-dessus des yeux. Les coins de la bouche avaient une inflexion douloureuse que le sourire rare et fugitif n'effaçait pas. Les cheveux, blonds dorés, ondoyés, de toute sa personne émanait comme un parfum de pureté et de noblesse, une grâce mystique, mystérieuse. Rien de banal ne ternissait cet esprit solitaire, replié sur lui-même, mais n'ayant jamais subi l'influence des âmes étroites, ni d'aucun préjugé mesquin. Gilbert la regardait avec une religieuse admiration, paralysée, ne trouvant pas un mot à dire. Ce fut elle qui rompit le silence. Elle semblait depuis un moment suivre une pensée et la question voltigea, irrésolue, sur ses lèvres avant de raisonner. « On m'a dit que vous étiez triste. Pourquoi ?»« Je suis orphelin, répondit-il, et jusqu'à présent, mon cœur était désert. » « Oui, dit-elle, il vaut mieux n'aimer jamais que de perdre ce qu'on aime. »« Oh, ne dites pas cela !» s'écria Gilbert, avec une exaltation involontaire. Le regret, tout poignant qu'il soit, a encore sa douceur. On se souvient de ceux qu'on a aimés et on espère les retrouver en une éternité possible. Mais celui dont la maride a desséché toute tendresse ne doit avoir qu'un espoir, celui de mourir tout entier. » Elle l'écoutait, surprise de l'emportement de cette parole, frappée de l'éclat singulier de ses yeux clairs. Puis elle se replongea dans le silence familier, dont elle sortit bientôt pour lui jeter cette phrase, avec un sourire. « Voulez-vous aimer le printemps avec moi ?» Il la regarda un instant sans répondre. « Je veux tout ce que vous voudrez, » dit-il enfin, balbutiant d'émotion et ne comprenant pas le sens de la question. Isoline se mit à rire de son trouble. Marie rentra. La jeune fille l'attira près d'elle par des caresses enfantines. « Écoute, dit-elle, voici un marin très effrayé. Il me croit folle. Que lui as-tu fait, méchante? C'est un noble cœur qui ne mérite pas ton mépris. » « Je lui offrais d'être comme mon frère, dit Isoline redevenue sérieuse, et de célébrer avec moi la fête qui va commencer. » « La fête ? Vous ne connaissez donc pas notre Bretagne et les splendeurs de son printemps ? Il n'y a ni carousel ni tournoi qui vaillent ces fêtes-là. Je les ai parcourues bien souvent, toute seule, fouillant les jardins enchantés, oubliant mes misères au milieu de ses richesses. » Elle baissa la voix. « Je voudrais les revoir une dernière fois, les léguer à quelqu'un, comme si toutes ces fleurs étaient à moi. » « Attends au moins que je sois sous terre, mauvaise, pour reparler de ces vilaines choses !» s'écria Marie, qui comprit la pensée d'Isoline. « Ça ne sera pas long d'ailleurs, car tu me pousses vers l'autre monde par tes cruautés. » La jeune fille lui sauta au cou. « Tais-toi, dit-elle, tu vois bien que je suis très gaie. J'entends Damon qui amarre son bateau. Allons le rejoindre et nous envoler sur l'eau. » Et se tournant vers Gilbert, « Venez-vous ?» Elle lui tendit la main et l'entraîna dehors. Marie, de la porte, avec un sourire attendri, les regarda s'éloigner. « Si elle pouvait l'aimer, cependant, » murmura-t-elle. Damon, qui, assis dans son bateau, débrouillait des lignes de fond, resta muet d'étonnement lorsqu'en levant la tête, il vit les jeunes gens debout devant lui, la main dans la main, comme de vieux amis. « Tu ne nous reconnais pas ?» dit-elle. « Largue la misaine, en avant !» s'écria Gilbert, qui croyait faire un de ses rêves où tout ce qu'on souhaite s'accomplit avec la plus grande facilité. Il avait hâte de quitter terre, d'être près d'elle dans cet étroit bateau, sur cet élément qui était le sien et où il lui semblait qu'elle venait le rejoindre. « À Léon !» avait dit Isoline en s'asseyant au gouvernail. Et la toile s'était tendue et l'on avait gagné le milieu de l'eau. Dinan, tout de suite, apparut à un coude de la rivière. Le soleil faisait resplendir les verdures qui rajeunissaient les vieilles murailles. Tout se dorait, le ciel d'un bleu très doux noyait les contours. Ce n'était plus la ville noire et lugubre dont Gilbert s'était attristé quelques jours auparavant, mais quelque chose d'heureux, de resplendissant, qui faisait songer à une belle cité d'Italie. « Voyez, » dit la jeune fille, en indiquant du doigt l'antique forteresse, aujourd'hui prison d'État, qui semblait hausser ses tours formidables au-dessus de la ville. « Voyez, c'est là que Tristan, le héros, fut ramené blessé à mort. C'est là qu'il pleura l'absence d'Iseux, tandis que son page, du haut du donjon, cherchait anxieusement un navire sur la mer. C'est incroyable, n'est-ce pas, que d'ici l'on puisse voir la mer ?» Pourtant, du sommet de la tour, l'on découvre un horizon sans fin. Les plaines, les coteaux, les côtes déchiquetées, puis la mer et tout au loin les îles presque indistinctes. Mais vous ne regardez pas. J'écoute, dit Gilbert qui la buvait des yeux. C'est vrai, dit Damon, dans les jours clairs, on voit Jersey et le Mont-Saint-Michel. J'ai bien souvent rêvé de retrouver leur tombeau, continua-t-elle comme se parlant à elle-même, car ils sont morts ici. Il la serra si fort dans ses bras en lui disant le dernier adieu qu'il lui fit partir le cœur. Elle soupira. « Je les ai bien aimés » murmura-t-elle, emportée par une rêverie. « Croyez-vous donc qu'un pareil amour ne puisse plus se rencontrer ?» dit Gilbert d'une voix tremblante. « Qui donc l'inspirerait ? » répondit-elle. « Regardez ces châteaux superbes dont la majesté nous émeut encore et les dentelles noircies de ces hauts clochers. » Voyez auprès d'eux les misérables constructions modernes. Il y a pour moi la même différence entre les hommes d'autrefois et ceux d'à présent. Vous les jugez mal peut-être, mais il est certain qu'Iseux n'était pas plus belle que vous ne l'êtes. Elle le regarda avec ironie et retint au bord de ses lèvres une phrase cruelle. Il se sentit attristé tout à coup par ce regard froid et se plit dédaigneux des lèvres. Pourquoi l'attirait-elle si elle le méprisait si fort? Pourtant, il n'était pas blessé par ce dédain immérité, il rêvait d'en triompher en se faisant mieux connaître. Quelque chose en lui avait plu, puisqu'elle, si farouche, était venue à lui. C'était plus qu'il n'avait espéré. Il caressa du regard ce profil fin et fier, ses yeux dont les prunelles ressemblaient à des turquoises, transparentes comme des saphirs, et il se rasséréna. Damon, dont l'âme fine avait distingué comme un grondement d'orage entre les deux jeunes gens, essaya une phrase conciliante, mais le pauvre homme, à la moindre émotion, bégayait horriblement. Tout se perdit dans un bredouillement incompréhensible dont Isoline rit méchamment. On passa sous un vieux pont très bas, le mât du bateau frôlait la voûte, puis sous le viaduc énorme qui résonna comme une cloche. Le château fort avait disparu, la rivière devenait ruisseau entre des rives ravissantes. On oublia Tristan et Iseux pour des libellules, vertes ou bleues, frissonnant dans un rayon au-dessus des nénuphars qui étalaient leurs larges feuilles. Les rives, très resserrées, sont formées là de rochers énormes qui se dressent avec mille cassures et que, jusqu'au faîte, une végétation exubérante escalade. Les feuilles, toutes neuves, font chanter dans toute leur fraîcheur les plus tendres nuances du vert. C'est un fouillis exquis, encore léger, plein d'oiseaux, où les saules argentés font des houppes blanches. La rivière, à cent caprices, décrit des demi-cercles, des boucles, semble s'attarder. Elle est verte comme ses rives, le ciel ne trouve pas d'éclaircie pour lui jeter le moindre pan d'azur. Souvent, de grands arbres se précipitent en travers de l'eau, laissant pendre des lianes. Ils rejoignent les buissons de l'autre bord, auquel il semble confier quelque mystère. Damon a plié sa voile, car le vent est banni de ce lieu charmant, les rames égratignent le miroir pur, presque sans bruit, on se laisse aller à un silence contemplatif plein de douceur. Tout à coup, un chant retentit sur l'eau. Ce sont des marins qui égaient leur route. On dirait un cantique un peu funèbre, tant leurs voix sont traînantes et tristes. La chanson de mer, pourtant, n'a rien de maussade. Chantons, pour passer le temps, les amours charmants d'une jeune fille, partie du port de l'Orient, la belle s'en va rejoindre son amant. « La connaissez-vous, cette chanson ?» dit Isoline à Gilbert. « Damon me l'a apprise et j'aime beaucoup cette histoire. L'amant est un capitaine et, pour ne pas le quitter, la jeune fille, déguisée en mousse, s'engage sur le navire. Il est frappé par une ressemblance, mais le faux marin se défend. Écoutez !» Le bateau passait tout près. « Monsieur, vous me surprenez, vous me plaisantez, vous me faites rire. Je suis un pauvre matelot qui s'est engagé à bord du vaisseau. Je suis né à la Martinique, je suis un garçon unique et c'est un navire hollandais qui m'a débarqué au port de Calais. « Oui, je me souviens, dit Gilbert, mes matelots la chantent quelquefois. » Les voix s'éloignaient. Ils sont bien restés 3 ans sur le bâtiment sans se reconnaître. Ils sont bien restés 3 ans, se sont reconnus au débarquement. « Pourquoi ce chant naïf me trouble-t-il aujourd'hui ?» se disait Gilbert. « Je l'ai entendu 100 fois sans y prendre garde. » Isoline le regardait plus doucement. N'était-il pas, lui aussi, un capitaine qui partirait bientôt sur son navire, mais seul et probablement désespéré ? Et, puisqu'elle ne voulait plus vivre que ce printemps, ce départ n'était-il pas pour elle l'événement dernier de sa vie inutile ?« Nous partirons tous deux au même moment, » se dit-elle. Puis elle songea au pays où il irait et l'interrogea sur les terres lointaines. Gilbert parla de l'Inde et de ses forêts géantes, des fleurs prodigieuses dont le parfum grise et des papillons, pétales envolés, et des oiseaux, pierreries vivantes. Elle entrevit, passant entre les troncs minces des bananiers, des femmes à la peau brune, serrées dans des pagnes blancs, leurs cheveux bleus finement nattés et des anneaux d'or aux narines, et des esclaves noirs et les éléphants sous le tendelet de soie, écrasant de leurs larges pieds les fleurs et les broussailles. Puis il lui parla de la Cochinchine et de ses ruines superbes, des Antilles, du Sénégal au perfide climat. Un désir de s'échapper, de fuir, lui venait. Que de choses ignorées de la pauvre solitaire. Est-ce que vraiment le présent valait la peine de vivre? Ces héros batailleurs dont elle avait l'esprit hanté, avaient-ils leurs égaux dans ces pays singuliers? Et elle questionnait encore sur les mœurs, sur les hommes. La beauté des costumes surtout l'étonnait. « Mais pourquoi êtes-vous revenu ? » disait-elle. « Le devoir. » Ce mot la jetait dans des rêveries. On se dévouait donc encore, on donnait sa vie pour sauvegarder la gloire de son pays. Oui, mais obscurément, sans brillant combat, sans armure damasquinée, sans panache frissonnante au vent. On pouvait estimer les héros modernes, non les aimer. Roland, sous son casque hérissé d'une chimère, lui paraissait beau comme un archange, et elle avait bien pleuré sur sa mort sublime dans les gorges de Roncevaux, tandis que le général Ventru, qui commandait la place de Dinan, la faisait pouffer de rire, malgré sa bravoure avérée. On était arrivé au but de la course. « Nous y voici !» s'écria Damon qui fit glisser le bateau dans une échancrure de la rive. « Encore des ruines, encore le passé !» Gilbert sentait là l'ennemi. Que faire comme des fantômes vus à travers la séduction de l'histoire et des voiles tissés par le temps ? Il rêvait des combats singuliers contre cette horde de spectres qui défendait l'âme à laquelle il donnait l'assaut. Il fallait que cette armée fût réduite en poussière, dispersée, évanouie, pour qu'il pût entrer en maître. Il admirait pourtant la puissance du livre qui avait ainsi peuplé cette solitude et la comprenait d'autant mieux que lui-même aimait passionnément les grands héros de la mer et avait acquis en leur société un certain mépris des hommes modernes. Dans le cloître en ruine, la jeune fille s'était assise sur un tombeau que les ronces ne recouvrent qu'à demi. Le chevalier de pierre couché sur le dos joignait ses longues mains verdies de mousse. du haut des ogives lézardées croulait une cascade de fleurs blanches, tandis que les feuilles jouaient le vitrail et répandaient une lumière verte. Avec sa robe d'un gris tout proche de celui de la pierre, sa pâleur, son immobilité, Isoline semblait une statue ajoutée au sépulcre. Le jour vert tombant d'en haut jetait le même suaire sur elle et sur le chevalier. Gilbert, en la regardant, eut un sursaut douloureux. « Venez, venez !» s'écria-t-il, « vous me semblez morte !» Elle se leva. « Jean de Beaumanoir repose ici, » murmura-t-elle. Hors de la pénombre, l'illusion se dissipa, la mélancolie tomba avec ce voile blafard. La jeune fille prit sa course, tout à coup, légère, repoussant ses cheveux que la brise éparpillait. Elle traversa le village noir, sordide, sa robe relevée sur le bras, sautillant sur les pavés gras, puis elle descendit un escalier de pierre, près d'un ruisseau où des femmes lavaient, et elle se retourna avec un regard souriant vers son compagnon qui ne s'était pas laissé distancer. « Maintenant, à l'assaut » s'écria-t-elle en désignant une colline abrupte sur laquelle se dressaient trois grosses tours démantelées. Gilbert s'élança et en quelques instants disparut à ses yeux. Elle était leste pourtant et grimpait, comme la chèvre sa nourrice, sur les pierres branlantes et les sentiers à pic. Mais elle ne put le rejoindre, et lorsqu'un peu dépitée, les joues roses et le cœur bondissant, elle arriva au faîte du mont, elle ne le vit nulle part. Il y avait des abîmes béants où les murailles de la forteresse s'étaient affaissées, les hérissant de pierres sans les combler tout à fait. L'herbe, les ronces, les fougères formaient dans ces creux un rideau mouvant, capable de se refermer sur un corps broyé. Isoline eut peur. Certainement, il avait glissé, était tombé. Emporté par cet élan insensé, il n'avait pu se retenir au bord de ce gouffre qu'il ne prévoyait pas. Elle se sentait très pâle et toute tremblante. Elle n'avait rien entendu, pourtant pas un cri. Mais elle courait si fort elle-même. Penchée, les yeux agrandis, elle interrogeait le creux obscur, puis elle fit le tour de la ruine. Une sorte d'orgueil retenait un cri d'appel sur ses lèvres. Rien. Disparu, muet, était-il mort déjà, ce compagnon qu'elle s'était choisi? Elle restait immobile, terrifiée. Une pierre qui dégringola du sommet de la plus haute tour lui fit lever la tête, alors le cri qu'elle avait retenu s'échappa de ses lèvres, cri d'effroi et de joie aussi. Gilbert, à califourchon sur un créneau tout au haut de la tour, y attachait comme un drapeau un bout d'étoffe soyeuse d'un bleu léger. Tout à l'heure, sans qu'elle s'en aperçût, il lui avait dérobé son voile et maintenant il flottait dans ce lieu inaccessible. « La forteresse est prise !» s'écria-t-il gaiement, « et les couleurs de madame y flamberont seules. »« Ah, descendez !» dit-elle d'une voix altérée. Cette descente fut un supplice pour elle. Les pierres, aux trois quarts des chaussées, branlaient sous le pied. Les touffes d'herbes auxquelles il s'accrochait pouvaient céder tout à coup et le précipiter avec elle. Elle le suivait des yeux, les dents serrées, et, par moments, il lui semblait que la tour entière oscillait. Lorsqu'il se jugea assez bas, Gilbert sauta. Isoline le crut perdu, ferma les yeux et se renversa à demi pâmé. Le jeune homme courut à elle. « Qu'avez-vous ? Mon Dieu, comme vous êtes pâle !»« Vous êtes fou ! » dit-elle rageusement. « Vous m'avez bouleversé !» Et, incapable de dompter ses nerfs, elle se mit à sangloter. « Ah, vous êtes bonne ! Vous êtes femme !» s'écria Gilbert qui s'agenouilla près d'elle. Vous avez tremblé un instant pour ma vie, mais l'enfantillage de cette escalade ne méritait vraiment pas tant que cela. N'avez-vous pas crié à l'assaut? Je n'ai fait qu'obéir. Honteuse de sa faiblesse, elle parvint à se calmer. C'est ainsi que vous enlevez une forteresse qui défia des armées pendant des siècles? Elle est un peu démantibulée. Mais la tour est haute et droite encore, je la croyais bien imprenable. « Les marins grimpent comme des singes, » dit Gilbert. « C'est peu que cela. En mer, quand la tempête se déchaîne, s'il faut monter au sommet d'un mât pour attacher un bout de cordage, c'est plus dur. Là, si la tête vous tourne, on est perdu. Le mât est haut comme la tour, mais moins stable. Parfois, son sommet effleure les vagues, et celui qui s'y cramponne est flagellé d'eau, Le vent fait rage pour l'arracher et l'emporter. Cela ne l'empêche pas toujours de rattacher son cordage. Vous avez fait cela ? 100 fois. Mais, adorable enfant, est-ce donc ainsi que la réalité vous trouble, vous qui ne rêvez que des héros d'autrefois, dont le principal mérite était de verser leur sang et celui des autres ? Ces boucheries vous eussent fait mourir, puisque le moindre mouvement où l'on risque une égratignure vous a arraché des larmes. C'est vrai, je suis folle, dit-elle, n'y pensons plus. Elle leva les yeux qu'elle tenait baissés, avec un peu d'embarras. Voyez, voyez tous ces corbeaux, les seuls seigneurs du castel aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils croassent de ces voix affreuses? Peut-être ils se souviennent des festins d'autrefois, car il y eut ici en effet d'horribles carnages, et la terre où nous sommes a bu bien du sang. On dit qu'il en coula jusqu'à la Rance, dont les eaux furent rougies. C'était du sang anglais. Ou celui de quelques seigneurs voisins. On s'entr'égorgeait facilement entre frères pour un bout de terre ou une querelle futile. Il ne faut pas médire des héros, reprit-elle. Du Guesclin a été gouverneur de cette forteresse. Il était fort laid, le bon chevalier. Ce qui ne l'a pas empêché d'être aimé par la plus belle des damoiselles. Ah, laissons les morts en paix, s'écria Gilbert. Nous vivons et nous sommes jeunes. N'écartons pas les fleurs qui nous voilent les tombes. Est-ce donc là le printemps que vous m'aviez promis, un vaste cimetière et de vains regrets ? Eh bien, partons, dit-elle, demain nous courons la campagne. Lorsqu'ils furent en bas, elle se retourna et vit son voile qui palpitait sur le vieux donjon. Elle serra alors la main de Gilbert avec une sorte d'enthousiasme. Cette folie avait mieux servi le jeune homme que des années de tendresse soumise. Ils revinrent, suivis des derniers rayons du soleil couchant. La barque, glissant sous les branches, sur les feuillages reflétés, leur fit l'effet d'un nid. Ils s'y sentaient heureux, emportés dans une somnolence. Le regard qui pesait sur elle l'engourdissait doucement, et lui pensait que cette heure était une des meilleures de sa vie. Lorsqu'il rentra chez sa sœur sans savoir comment il y était revenu, ce retour à la vie vulgaire lui causa un choc pénible. Il était enveloppé d'un nimbe de bonheur qui l'isolait. On le trouva maussade, le rayonnement de ses yeux ne fut pas compris. « Comment trouves-tu Marguerite Rochereuil ?» lui demanda Sylvie après le dîner. « Je ne la connais pas. »« Comment ? Tu as passé toute une soirée avec elle ici, la fille du maire. »« Je ne l'ai pas regardée. »« Vraiment ? Eh bien, regarde-la une autre fois, elle a 200 000 francs de dot. » « Tant mieux pour elle, » dit Gilbert. « Qu'est-ce que ça me fait ?»